franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour à tous. En France, il y a des riches, en France, il y a des pauvres et même des travailleurs pauvres. Il y a des métiers qui rapportent et d'autres qui ne payent pas du tout. Mais quelle est donc la profession la moins rétribuée du pays, là où, malgré le nombre d'heures, malgré les efforts, les sourires, on touche à peine de quoi remplir son frigo tous les mois? Cette profession, c'est AVS, pour auxiliaire de vie sociale. Et c'est l'INSEE qui la qualifie de profession la moins payée de France. Les AVS sont les personnes qui s'occupent de nos aînés, des aides à domicile. Elles préparent leur repas, elles s'occupent de leur toilette, font leur lit, le ménage, et quand elles ont le temps, font un peu de conversation. Or, comme nous l'explique le nouveau numéro du bimestriel Fakir, non seulement ces auxiliaires sont payés au lance-pierre, mais elles pourraient bientôt glisser carrément sous le seuil de pauvreté. Témoignage de Brigitte, Véronique, Fatia, qui racontent à la fois leur journée harassante et maintenant les pressions qu'elles subissent. Au motif de faire pour eux-mêmes des économies, les conseils généraux les obligent en effet à changer de contrat de travail. Elles étaient prestataires, on les oblige à devenir mandataires. Un changement de statut qui n'est pas sans conséquences financières, car elles vont perdre la majoration des dimanches, leurs frais kilométriques, leur mutuelle et leur ancienneté. Et au bout du compte, leurs revenus pourraient baisser de 30%. Une perte d'argent substantielle dans l'indifférence générale, sachant que dans le même temps, les vieilles personnes dont elles s'occupent doivent donc devenir leur patron. Bonjour la paperasse, c'est les responsabilités, c'est la détresse des deux côtés. Et pour Fakir, ce qui se passe là peut s'appeler de l'abus de vieillesse.
Des questions d'argent également dans la presse de ce matin, de l'argent et de la politique.
Lire notamment dans le JDD le papier Le Pen, père et fisc. Alors que la présidente du Front National présente ce dimanche son projet présidentiel, ses déboires financiers l'obligent à un rapprochement avec son père. En l'occurrence, tous les deux se sont retrouvés mardi dernier dans un bureau de la Commission départementale de conciliation des affaires fiscales des Hauts-de-Seine dans une histoire de patrimoine fiscal. Le Trésor réclame à Jean-Marie Le Pen et à deux de ses filles près de 3 millions d'euros. Une histoire parmi d'autres, car comme le rappelle Mathieu Aron dans l'Obs, il existe dans ce parti un degré de malversation rarement atteint dans l'histoire politique du pays. Mais très étonnamment, cette vérité-là n'imprime pas. Dès lors, il apparaît qu'il faut dire et redire les choses. Oui, écrit-il, le FN est un parti mouillé jusqu'au cou dans des scandales multiples. Et oui, en proportion de son petit nombre d'élus, il bat tous les records de la République. Parti anti-système, il se nourrit du système. Financement de la campagne présidentielle de 2012, brigade d'assistants fictifs au Parlement européen, sous-estimation des déclarations de patrimoine. Le FN, c'est le parti de la triche. Et pour un peu, conclut-il, François Fillon et son épouse Pénélope Ferré figurent à côté d'enfants de cœur.
François Fillon qui d'ailleurs fait la une du JDD.
Grande photo et ce titre, le mystère Fillon. Où l'on peut lire que, malgré les soupçons, l'ex-premier ministre veut maintenir sa candidature. D'après un sondage, l'électorat de droite continue d'ailleurs de le soutenir et il prépare sa contre-attaque. Sans doute une longue interview à la télévision ces prochains jours, interview dans laquelle il pourrait faire part de ses regrets, voire aller, qui sait, jusqu'au mea culpa. Mais pas question toutefois d'admettre la moindre faute pénale s'il décide de se maintenir. C'est tout simplement parce qu'il n'y a, semble-t-il, pas de plan B qui puisse tenir la route. Commentaire désabusé d'un ex-partisan de Bruno Le Maire. Avec lui, on a 15% de chance de gagner, mais sans lui, on a 100% de chance de perdre. Et puis son retrait poserait à la droite un casse-tête financier. Tout l'argent récolté au moment de la primaire de la droite et du centre est en effet allé dans les caisses du micro-parti de François Fillon. Et il a déjà engagé des frais pour sa campagne. Si l'actuel candidat abandonne, son successeur serait-il tenu de comptabiliser pour lui ses différentes dépenses engagées? Vrai casse-tête financier et dans le camp Fillon, la défense ne change pas. On continue à dénoncer une chasse à l'homme. Mais y a-t-il vraiment chasse à l'homme? Non, absolument pas, répond Renaud Dely dans son édito de Marianne. Comme François Fillon l'a lui-même affirmé durant la campagne de la primaire de la droite, on ne peut pas diriger la France si l'on n'est pas irréprochable. Il n'y a donc ni chasse à l'homme, ni lynchage, ni complot monté par une quelconque officine. C'est tout simple, Question de décence, écrit-il, une question d'éthique, une affaire de responsabilité qui a trait à l'utilisation des deniers publics. Et le directeur de la rédaction de Marianne de citer les exemples éloquents d'élus étrangers, la maire d'une ville de Norvège, contrainte de quitter la politique parce qu'elle avait accepté d'être invitée pour une croisière de 2 jours sur un paquebot, ou bien ses ministres suédoises, contraintes à la démission, l'une parce qu'elle n'avait pas payé sa redevance télé, l'autre parce qu'elle avait rémunéré la nounou de ses enfants au noir, c'était en 2006, et 15 ans plus tôt, déjà en Suède, la ministre du Travail avait, elle aussi, dû quitter ses fonctions au gouvernement, après qu'on eût découvert qu'elle avait acheté 2 barres de Toblerone avec sa carte professionnelle. Aujourd'hui, donc, François Fillon est soupçonné d'avoir versé près d'1 million d'euros à sa femme et ses enfants, 2 de ses enfants, une somme qu'il ne conteste pas, mais pour un travail qui, selon les mots même de son avocat, n'était pas forcément tangible. Conclusion de Renaud Dely. Dans n'importe quelle démocratie scandinave ou anglo-saxonne, un candidat lesté de telles accusations aurait déjà jeté l'éponge.
La presse revient également sur le meeting d'Emmanuel Macron hier à Lyon.
Il y a des accords dans les chiffres. Macron devant 8000 fidèles à Lyon, titre ainsi le courrier Picard. 8000, c'est aussi l'estimation de Midi Libre. C'est 7000 dans le Parisien. Mais pour Sud-Ouest dimanche, son meeting a réuni plus de 15000 personnes. Macron en marche et en rassembleur, commente le journal, tandis que la Dépêche évoque une démonstration de force. 16000 marcheurs avec Macron. De 8000 à 16000, on passe quand même du simple au double. Certains, visiblement, ont compté le public massé à l'extérieur. Sur le fond, cependant, toujours pas de programme. Même s'il s'exprime bellement, le candidat d'En Marche a continué hier à ne pas dire grand-chose, note ainsi Arthur Nazaret dans le journal du dimanche. À ses yeux, l'ex-ministre s'est contenté de tracer de grandes perspectives sur l'écologie, l'économie, la politique. Mais l'opération séduction se poursuit. Hier, dans le public, il y avait notamment l'écrivain Éric Orsenna et la dame au chapeau Geneviève de Fontenay. Là, en revanche, on parle de programme. À la une d'aujourd'hui, le Parisien. La photo du doyen des candidats à l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il détaille donc son programme, quelques points de son programme. La relance de l'économie par un investissement massif qui permettrait la création de 3,5 millions d'emplois, la sortie du nucléaire, le changement de l'Europe, l'abrogation de la loi travail et un protectionnisme qui serait solidaire, dit-il. Il en profite aussi pour tacler ses différents adversaires, notamment la tradition d'arrogance du PS. Mais dès lors, va-t-il travailler avec Benoît Hamon, candidat désigné du Parti Socialiste ? Pourquoi pas ? Répond Jean-Luc Mélenchon, ajoutant qu'il y a cependant une condition. L'honnêteté, il l'appelle, je cite, à faire le ménage au PS. Ne pas investir notamment pour les prochaines législatives les candidats de la droite du parti. Et après, si Hamon effectivement décide de ne pas investir les candidats de la droite du PS, tout sera possible. Il est donc prêt à discuter. Enfin, une petite info médiatique. Il s'agit également d'argent pour finir. Près de 400 000 exemplaires et plus de 70 000 abonnements. Ce sont les chiffres de vente du Canard enchaîné de cette semaine. Visiblement, ça a marché et cela prouve que ça peut payer de ne pas être un canard laquais.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.